Oui, un peu plus d'un mois est passé depuis que le pape nous a offert la troisième encyclique de son pontificat. Elle s'intitule Fratelli Tutti et porte sur la fraternité humaine. Un mois est passé, des événements dramatiques se sont produits. Alors, quelle résonance donne-t-il à ce texte? On voit ça avec vous, frère Olivier de Saint-Martin. Bonjour.
Bonjour Isabelle.
Vous êtes le prieur de la province dominicaine de Toulouse. Nous avons 14 minutes ensemble pour aborder un texte finalement assez long que je ne saurais trop vous conseiller à vous qui nous écoutez de vous procurer. Alors, sur ce texte, il y a eu beaucoup de commentaires sur ses accents politiques, parfois jugés très bisounours par certains, un ton jugé abrupt, avec des exemples qui peuvent être très prosaïques. Quelle a été votre première réaction à vous, frère, à la lecture et à la réception de ce texte?
Bah écoutez, justement, je trouve que c'est bien qu'on prenne un mois parce que les premières réactions ne sont pas toujours les bonnes. Vous l'avez dit, il y en a certains qui ont trouvé que c'était bisounours, d'autres qui, au contraire, ont été frappés par le caractère abrupt. Il y a vraiment de tout. Moi, je crois que la première lecture pour moi j'ai été heureux de voir la parabole du bon samaritain. Après, j'ai trouvé le texte est long, à peu près 200 pages quand même. Enfin, c'est long. Et puis, c'est vrai que c'était pas une encyclique comme on a tellement l'habitude.
Pourquoi ?
Puisque d'habitude dans une encyclique, on a beaucoup de références très théologiques, de références à la Bible. C'est doctrinal, c'est-à-dire que c'est souvent quelque chose qui s'adresse d'abord aux évêques, puis aux prêtres et au peuple chrétien. Mais là, on a plutôt l'impression, et je crois que d'ailleurs c'est le genre, on est plutôt dans une longue et belle, profonde méditation. Alors, de fait, je suis revenu, après l'avoir lu, je suis revenu à qui il s'adressait. C'est toujours très important de regarder à qui un pape s'adresse, à qui est adressé le texte. Ainsi, en 93, lorsque Jean-Paul II avait écrit « Veritatis Splendor », c'était « pour les évêques ». Benoît XVI, « Caritas in Veritate », l'avait écrit pour les évêques, les prêtres, les personnes consacrées, les fidèles laïcs, les hommes de bonne volonté. À Maurice Laetitia, c'était aussi pour les couples mariés, évidemment. Et là, cette encyclique, en fait, elle n'a pas d'adresse. Elle est envoyée, elle est écrite pour l'ensemble des hommes de bonne volonté. Il n'y a pas de hiérarchie pour les évêques, les prêtres, les diacres, etc. Alors c'est logique d'ailleurs, si le titre est Fratelli Tutti, tous frères, une reprise de ce que disait François d'Assise, évidemment c'est assez logique qu'il n'y ait pas de hiérarchie, mais elle est adressée vraiment à tout le monde et c'est aussi sans doute ce qui explique son genre.
Et oui, alors on vous entend étouffer, frère, faites attention à la manière dont vous tenez votre micro. Cette lettre n'a pas d'adresse, nous dites-vous, elle s'adresse en fait à toutes les personnes de bonne volonté, c'est ce que dit le pape François. On entend donc qu'elle ne s'adresse même pas aux seuls chrétiens, c'est ça?
Non, tout à fait. Alors donc ça c'est sans doute quelque chose qui explique son genre littéraire. Cette méditation, le pape dit le monde auquel il rêve. Et puis, c'est un texte, vous l'avez dit au départ, qui est plus difficile qu'il n'y paraît. Mm-hmm. Puisque le pape, il mêle des considérations qui relèvent des principes à des propositions qui sont hyper concrètes et qui appartiennent à la fois au jugement prudent d'un homme qui a une responsabilité du type politique, aussi, pastoral, politique, qui a son propre référentiel, et le pape ne s'en cache pas, il ne prétend pas que les exemples concrets qu'il donne soient des principes non négociables. Il sait qu'il vient d'Argentine, comme Jean-Paul II savait qu'il venait de Pologne et du monde qui était dominé par le communisme, comme Benoît XVI, lui, était un Allemand rompu à la dimension de la diplomatie internationale. Donc, chacun sait d'où il vient. Mais ce qui est intéressant aussi dans cette encyclique, je crois, c'est que justement, le pape rappelle des principes non négociables. C'est parfois désagréable de l'entendre, mais c'est quand même bien de le réentendre. Et puis, il va mêler des exemples très concrets. Ce qui est applicable et qui a vraiment toute sa pertinence en Argentine ne l'a peut-être pas en Europe, mais en même temps, en nous rappelant des exemples concrets, le pape nous rappelle que rappeler uniquement les principes de manière un peu incantatoire, sans verser dans le concret, sans aller dans le concret, est quelque chose qui n'a aucun sens. Hein, c'est ce que rappelle l'apôtre, la foi sans les œuvres ne vaut rien, c'est Saint-Jacques. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte.
Alors on va rentrer dans le texte lui-même. Quelle est sa force? Qu'est-ce qu'il dit? On a très peu de temps ensemble, hein, frère Olivier de Saint-Martin. On va essayer d'aller à l'essentiel. Que nous dit-il? Qu'est-ce que vous retenez?
Alors, on peut dire très rapidement quand même que c'est donc le pape donne l'enjeu dès le départ. C'est une encyclique sur la fraternité et l'amitié sociale. Alors cela, il va le développer en 8 chapitres. D'abord en proposant une vision, une analyse, une présentation du monde assez sombre. Alors le pape écrit aussi, hein, et c'est une encyclique qui est marquée par la crise épidémique qui frappe le monde entier. Donc c'est aussi dans cet environnement-là qu'il écrit pour développer, pour montrer les enjeux. Donc d'abord un constat d'un monde assez sombre, et puis dès le chapitre 2, le pape entame un long commentaire de la parabole du bon samaritain, qui en fait est le fil rouge du reste de l'encyclique, dans lequel il va développer sur les 6 chapitres à venir un monde ouvert, les enjeux, le défi de la migration, une meilleure politique. Le chapitre 6 qui fait vraiment écho au chapitre 3 sur le dialogue et l'amitié sociale. Et ensuite 2 chapitres, l'un pour un parcours pour se retrouver, et puis évidemment les religions au service de la fraternité dans le monde.
Alors justement, hein, pour reprendre effectivement ce constat sombre, on peut citer une phrase du premier chapitre, hein, qui s'appelle d'ailleurs « Les ombres d'un monde fermé ». Le monde contemporain est en grande partie sourd. Parfois, la rapidité du monde moderne, la frénésie, nous empêche de bien écouter l'autre. Et vous l'avez dit, hein, avec cette parabole du bon samaritain qui est comme un fil rouge, qui nous donne la voie à suivre. Et cette voie, c'est celle de la proximité, de la culture, de la rencontre. Vous nous avez parlé d'un thème effectivement central, c'est celui de l'amitié sociale. De quoi il nous parle?
Alors, comment dire, l'amitié sociale, c'est une notion qui est assez ancienne, mais dans l'Église, mais qu'on oublie assez régulièrement. Alors, d'abord, je crois que ce qui est très important de rappeler, le pape le dit notamment au numéro 272, il ne s'agit pas d'abord uniquement d'une fraternité, d'une grande fraternité où Dieu n'aurait pas sa place, de quelque chose de très horizontal. Au numéro 272, le pape dit « Nous croyons, nous pensons que sans une ouverture au Père de tous, donc de Dieu, il n'y aura pas de raison solide et stable à l'appel de la fraternité, à la fraternité. Nous sommes convaincus, et c'est seulement avec cette conscience d'être des enfants qui ne sont pas orphelins, que nous pouvons vivre en paix avec les autres. » Alors, et il continue. Au fond, on est vraiment dans la question du monde moderne et de la crise que nous vivons avec le Covid. Avec la Covid. Depuis le péché originel, on peut dire que l'homme se cache à l'homme. Hein. Adam et Ève se font des pagnes, ils ont honte l'un devant l'autre. Et c'est ce qui fera dire à un philosophe du XVIIe siècle, Hobbes, que finalement c'est la peur qui régit les rapports entre les individus, et que il y a deux échappatoires. La première échappatoire, c'est la violence, on domine l'autre, on l'écrase, ou l'autre échappatoire, c'est de demander à l'État de contrôler l'ensemble de tout ce qui se passe, de contrôler un virus, de contrôler l'économie, de tout contrôler, et on est prêt à donner à l'État plein de choses, y compris nos libertés, pour que ne plus être balayé par la peur. Le pape propose une autre voie, l'Église, l'Évangile propose une autre voie, qui est celle de la fraternité. Alors, cela s'origine sur des choses assez anciennes, puisqu'on le trouve chez Aristote, chez les philosophes grecs, pour lesquels la cité composée de familles, les familles composaient la cité, c'était la société parfaite. Et dans la famille, ce qui est moteur, ce qui est la base, ce qui est la condition de la vie familiale, c'est une forme d'amitié. On apprend dans la famille à vouloir le bonheur de l'autre, à se préoccuper de l'autre, à prendre soin de l'autre, à s'oublier soi-même, à se mettre au service les uns des autres. Mmh. Et ce type de relation, dit François, doit s'étendre. pas uniquement dans la famille, mais doit s'étendre dans la vie sociale, dans la vie publique. Alors, François le dit, Benoît XVI le rappelait lui-même dans Caritas in Veritate. L'amour est le principe non seulement de micro-relations, rapports amicaux, familiaux, en petits groupes, mais également des macro-relations, rapports sociaux, économiques et politiques. L'amour est un élément fondamental des relations humaines, même de nature publique. Ça, c'était Benoît XVI.
Et alors l'amour, la fraternité en principe politique, en politique réaliste, ça se traduit comment? Ça se construit comment?
Eh bien, en fait, c'est une vision anthropologique. C'est de dire que
Ça paraît
nous
très
sommes.
utopique tout de même.
Comment?
Ça paraît très utopique.
Oui, mais d'ailleurs, le pape parle d'un rêve, mais en même temps, c'est ce que le Christ donne comme enseignement. C'est-à-dire que soit on peut partir anthropologiquement, nous sommes naturellement des êtres de relation. Nous sommes des êtres sociaux et nous devons sortir en permanence de nous-mêmes. C'est notre expérience, c'est notre expérience. Mais nous sommes marqués aussi par l'égoïsme. C'est pour ça que je faisais référence au livre de la Genèse. Le Christ nous invite sans cesse à sortir de nous-mêmes. C'est quelque chose qui est inscrit dans notre cœur, dans notre nature humaine, mais le Christ nous invite à sortir sans cesse de nous-mêmes, à aller à la rencontre de l'autre et à avoir un véritable dialogue. Et le pape citera notamment la violence des réseaux sociaux, où aujourd'hui nous avons un mal peut-être encore plus grand qu'hier à ne pas avoir un avis sur tout, puisqu'on a une étendue de
Et
connaissances
oui.
d'accès à l'information qui est incroyable. Chacun de nous réagit avec ce qu'il est, de façon épidermique. C'est encore accentué aujourd'hui par l'anxiété de la crise sanitaire. Et du
Frère, je
coup.
vous coupe pour cette aller vers l'autre. Il nous reste 3 minutes, c'est pour ça. Hein. Dans cette aller vers l'autre, il y a aussi aller vers les autres religions. Le pape le dit lui-même hein, dans son intro. Ce texte a été impulsé par la rencontre avec le grand imam de la mosquée Al-Azhar, hein, Ahmed Al-Tayeb. C'était à Abu Dhabi en 2019. Le grand imam et moi-même avons déclaré fermement que les religions n'incitent jamais à la guerre et ne sollicitent pas des sentiments de haine, d'hostilité, d'extrémisme, ni n'invite à la violence ou à l'effusion de sang. Au regard des événements récents, frère Olivier de Saint-Martin, on peut quand même être tenté de se dire que c'est une belle utopie, difficile à mettre en œuvre.
Alors, elle est très difficile à mettre en œuvre. D'abord, alors peut-être une petite correction. Le pape dit qu'il a été stimulé par sa rencontre.
C'est vrai.
On a beaucoup dit qu'il a été inspiré. En fait, non, il dit qu'il a été stimulé par sa rencontre avec l'imam. Alors, je crois qu'effectivement, et l'actualité le montre bien, que de crimes on est capable de commettre au nom de Dieu, au nom de la religion. Mais ce n'est pas. Donc, il faut combattre le mal. Concernant ce mal-là, il faut le combattre, il faut le nommer, il faut détester le mal, il faut le combattre. Mais non pas celui qui a commis le mal. On doit nommer le mal et le combattre. Mais il y a les personnes, et là, l'évangile est extrêmement clair. Jésus nous dit, soyez parfaits comme votre Père est parfait. Et la manière dont Dieu aime le monde, quoi que nous puissions faire, c'est toujours en nous proposant le salut. C'est en nous demandant la conversion, mais en nous donnant les moyens de la conversion. Il a envoyé son Fils pour mourir, alors, dit saint Paul, la preuve que Dieu nous aime, Il a donné sa vie pour nous alors que nous étions des criminels. Donc, alors vous me direz, nous ne sommes pas des criminels. Oui, mais combien d'indifférence, combien de discours incantatoires contre lesquels justement le pape lutte dans cette encyclique, qui ne se traduisent pas dans les faits. Et cela aussi conduit à des morts. Et Dieu continue envers et contre tout. Et Jésus nous dit, soyez parfaits comme lui. Et puis il nous rappelle, priez pour vos ennemis, aimez vos ennemis. Je dois donc pardonner sans mesure. Alors oui, c'est pas facile. Oui, mais c'est la voie que le Christ a vécue, c'est la voie que Dieu a prise. Et quand Jésus nous dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, il nous invite à prendre exactement ce chemin. Et je crois que là, c'est la vérité nue de l'Évangile.
Merci beaucoup, frère Olivier de Saint-Martin. Je vous invite, vous qui nous écoutez, à vous plonger dans ce texte beaucoup plus riche qu'il n'y paraît. Fratelli tutti. Merci beaucoup.
Merci, Isabelle.